Il ne s'agit donc pas seulement de perception d'événements à venir. Vous pensez percevoir des bruits émis par votre père ? Je l'interprétais comme ça, oui. Et, Dieu merci, maman m'a dit, « Ma chérie, tu n'es pas folle. Ton papa vivait les mêmes choses. » Ah oui ? Il était sensible, très sensible. Je l'ai découvert en parlant avec maman. À cette époque, ma mère m'a proposé d'aller me confier à un prêtre qui était un ami de la famille. Après que je lui ai raconté ce que je percevais, il m'a rassuré en disant qu'après un choc, il arrivait effectivement qu'on développe une sensibilité sous-jacente et que l'on capte des choses et des gens.
Il était ouvert, ce prêtre.
Oui, c'était un homme formidable. C'est lui qui avait officié pour les obsèques de papa. Il est même arrivé que l'on parte en vacances avec lui. Un curé génial.
Et votre maman aussi a fait preuve d'une belle écoute.
Le soutien de ce prêtre a été important, mais en effet plus encore celui de ma mère. Elle aurait pu clore l'affaire par un « tais-toi, t'es ridicule ». Tellement d'enfants à la sensibilité accrue entendent ça.
Oui, beaucoup. C'est souvent faute d'une information adaptée et accessible lorsqu'ils rapportent des expériences un peu hors normes à leurs parents désemparés. Mais pour en revenir à ces sensations que vous interprétez comme étant des perceptions de votre papa, pouvez-vous m'en dire plus ?
Au début, j'entendais le bruit de ses pantoufles, et puis, au fil des années, je me suis mis à entendre sa voix. Je ne distinguais pas forcément ce qu'il disait, mais je reconnaissais sa voix. Et en fait, ce n'était bientôt plus seulement mon père. Je ressentais parfois d'autres personnes. Je suis devenu sensible aux présences.
En entrant dans l'âge adulte, Carole prend confiance dans cette capacité un peu extraordinaire dont elle dispose, sans toutefois décider du moment. Après tout, ce n'est pas trop envahissant et cela n'empêche pas la toute jeune fonctionnaire de mener sa vie comme elle l'entend, les pieds sur terre.
Les rêves sont également un espace de rencontre avec ses présences. L'un d'eux, plus particulièrement, va davantage troubler la cartésienne qu'elle est.
Carole est en déplacement professionnel dans le Cantal. Dans le rêve qu'elle fait cette nuit-là, elle se retrouve nez à nez avec son grand-père décédé. Ce dernier lui intime de rentrer sans tarder à Limoges, où elle habite alors, sans toutefois lui en donner la raison. Au matin, interloquée, Carole décide de ne pas changer son programme pour autant et ne rejoint Limoges que le surlendemain.
Lorsqu'elle retrouve sa famille, son frère lui annonce que sa grand-mère a fait une chute.
Cette grand-mère est la veuve du grand-père apparu dans le rêve.
En tombant chez elle, elle s'est fracturée le col du fémur.
Elle est hospitalisée et l'examen médical approfondi qui a été pratiqué a permis de découvrir que la vieille dame est atteinte d'un cancer du poumon au stade terminal. Personne n'avait rien vu venir.
Coïncidence ?
Est-ce un hasard si le défunt époux de cette grand-mère est apparu dans le rêve de Carole pour lui enjoindre de vite rentrer à Limoges ?
Le fait est que sa grand-mère va partir en moins d'une semaine.
Durant ces quelques derniers jours de vie, Carole lui rend visite de longues heures quotidiennement.
Un matin, je rentre dans la chambre que ma grand-mère partageait avec une autre dame, et je trouve cette mamie toute retournée et de mauvaise humeur. À peine suis-je entré qu'elle me lance « Écoutez, votre grand-mère, j'en ai marre !» Je lui demande pourquoi, et elle me répond de but en blanc « Elle n'arrête pas de me dire que son fils vient la chercher !» Comme mon père avait un frère, j'ai pensé à lui, en me demandant bien pourquoi mon oncle viendrait faire croire à sa mère mourante qu'on allait venir la chercher.
« Que disait votre grand-mère ? Vous pouviez parler avec elle ?»
J'arrivais à communiquer en espagnol, sa langue natale. Elle faisait de longues pauses silencieuses. Sa respiration était laborieuse, lente. Mais j'ai quand même réussi à échanger avec elle. Et effectivement, elle parlait de la visite de son fils. Cependant, il ne s'agissait pas de mon oncle, mais de mon père, son autre fils. Que vous a-t-elle dit précisément ?
Ton papa vient me chercher. C'est là que j'ai percuté. Elle savait très bien ce qu'elle disait, qu'il était mort depuis longtemps. Alors je pense qu'elle l'a vu.
Oui. Et elle est décédée ce même jour. Ces visions que décrivent parfois les personnes hospitalisées à leurs proches ou au personnel soignant peuvent être très marquantes. Nous l'avons vu au long de ce livre, pour elles qui se trouvent au crépuscule de leur vie, mais aussi pour ceux qui les accompagnent et recueillent ces témoignages. Que dire lorsque ces visions sont partagées ?
C'est ce qui est arrivé à Carole, des années après, tandis qu'elle venait rendre visite à une autre personne de sa famille en fin de vie. Sa tante Monique, pourtant encore jeune, 60 ans à peine, cancer. Nous sommes en février.
Carole entre dans la chambre 2727 du service oncologie de la clinique François Chaigneux de Limoges, où Monique est hospitalisée pour un cancer du pancréas. La maladie l'a fait souffrir. Carole s'assied délicatement sur le bord de son lit pour ne pas trop le faire bouger face à sa tante, dos à la porte.
J'étais dans la pièce depuis quelques minutes lorsque ça s'est produit. Nous parlions de mon fils, je crois, quand tout à coup, son regard a été attiré par quelque chose derrière moi. C'est vraiment son regard fixe qui m'a interpellé. Une demi-seconde, le temps que je me retourne, je pense à la visite d'un médecin ou d'une infirmière, même si je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir.
Et que voyez-vous ?
Je me retourne et je vois des formes floues. Je distingue bien le mur de la chambre et juste devant, dans une vision un peu vaporeuse, trois dames d'un certain âge, habillées avec les mêmes longues robes un peu comme les moines, avec chacune une ceinture bleue. Toutes trois portent la même ceinture bleue.
Quelle est votre réaction ?
Je n'ai pas peur. Je vis simplement la scène.
Vous n'êtes pas surprise ?
Je suis un peu scotché quand même, mais je reste fixé sur ces femmes. Et j'entends ma tante dire « Non, non, non !»
Et la vision s'estompe et disparaît. Carole se retourne vers sa tante.
Son visage est extatique. Elle, qui se trouve pourtant en phase terminale, paraît transportée de bonheur. Ses yeux brillent.
Carole lui demande « Tu as vu ce que j'ai vu ?»
Monique esquisse un sourire et répond « Ben oui !» Tu as vu les trois personnes, toi aussi ?
Oui, confirme Carole.
Tu as vu ? Elles avaient toutes une ceinture bleue comme la Vierge,
précise Monique.
Ma tante était croyante, et plus tard ma mère m'a appris qu'effectivement, la Vierge est souvent représentée avec une ceinture bleue. Je n'avais pas fait ce rapprochement, c'est ma tante qui l'a évoqué.
Qu'a-t-elle décrit d'autre ? Vous a-t-elle expliqué pourquoi elle avait dit non ?
Oui, c'est à cause de ce que ces dames lui avaient dit.
Vous n'avez rien entendu ?
Non, moi je n'ai pas entendu. Ma tante m'a confié qu'elle lui avait dit « Viens avec nous, viens, viens !» ce que ma tante avait refusé. Elle a ajouté à mon intention « Oh non, je ne veux pas y aller, pas tout de suite. »
Je n'ai pas été plus loin.
Elle avait l'air tellement heureuse, pas du tout apeurée.
Le « non » prononcé par Monique a suffi à mettre un terme à cette vision partagée par les deux femmes. Bien des années après, Carole se remémore l'ambiance si particulière qui baignait la chambre pendant ces quelques minutes.
C'était si spécial. Une atmosphère pas lourde du tout.
C'est-à-dire ?
On ressentait la présence de quelque chose qui nous dépassait. On se trouvait dans cette chambre d'hôpital remplie de matériel médical lourd, de technologie. Ma tante était reliée à des machines. Et voilà soudain cette présence tellement forte. Et puis, étonnamment, on a repris notre conversation.
Bon, moi je suis resté un peu abasourdi quand même. Un peu plus tard, Monique raconte à sa nièce avoir eu une autre visite de son père à elle, cette fois.
Nouvelle expérience très touchante et vécue avec la plus parfaite simplicité. Monique s'interroge tout de même à leur propos, mais sans toutefois considérer avoir expérimenté une forme d'hallucination. Elle est intriguée, curieuse, dubitative, mais habitée par la douce tranquillité de vivre des moments à la fois réels et un peu magiques. Les deux femmes parlent avec beaucoup de franchise. Monique est une femme très logique, mais lorsque ses visions lui apparaissent, c'est une sorte d'évidence. Elle ne se pose plus de questions et vit l'expérience sans s'embarrasser. Votre tante est décédée en 6 mois. Pensez-vous que ces expériences l'aient aidée? Complètement. Après ces expériences, elle était détendue, souriante. Elle se trouvait en fin de vie quand même, une période terrible. Mais quand on en parlait, même ses yeux n'étaient pas comme d'habitude. C'était elle. Mais en même temps, une autre âme me regardait, une autre personne qui savait qu'elle partait. Plus nous cheminons dans l'évocation de ces confrontations avec la mort, plus je suis frappé par la sérénité qui se dégage de Carole. Son discours est très ancré dans le réel. Elle fait preuve d'esprit critique. Aucune exagération dans ses propos, et pourtant, avec le décès de son père, elle n'a pas été épargnée. Je sens une grande maturité en elle, une paix profonde. J'ai envie de comprendre le sens qu'elle donne à sa vie, si tant est que l'on puisse parler du sens qu'il y aurait à perdre son père si jeune. Et pourtant, sa réponse va me stupéfier. La mort de mon père est à la fois la chose la plus terrible qui soit, mais aussi, et j'espère que vous ne trouverez pas indécent ce que je vais vous dire, le plus beau cadeau. Là, il faut que vous m'expliquiez. Son décès m'a plongé dans la tristesse. J'ai vécu un traumatisme. Mais c'était aussi sa vie, son chemin, son destin. En partant, il m'a offert l'ouverture. L'ouverture. L'ouverture vers cet autre monde. Et puis, il m'a aussi enseigné une certaine humilité. Quand on vit ça à 12 ans, on apprend que tout ne tient qu'à un fil et qu'à tout moment, tout peut s'arrêter. Mais si tout ne tient qu'à un fil, c'est également le cas du positif. C'est-à-dire, le décès de papa a été brutal, mais on peut aussi recevoir de bonnes nouvelles brutalement. Grandir avec cette idée que tout ne tient qu'à un fil me permet de vivre pleinement dans le moment présent et d'accepter très volontiers et sans aucune frustration les aléas de la vie. Je sais que mon passage ici a un sens. Dans mon cœur, c'est une réalité que j'expérimente au quotidien. Aussi, je dis un grand merci aux épreuves, aux personnes qui m'ont fait du mal, parce que c'est justement par ces moments que je grandis. Je ne veux pas être quelqu'un d'aigri, je veux transformer les épreuves en bien, comme un alchimiste. Mais il y a quelque chose d'inacceptable dans le départ de personnes très jeunes comme votre père. Et que dire de celui d'enfant? Ça n'a aucun sens, entend-on. La vie est absurde, injuste. Perdre un parent âgé reste dans l'ordre des choses, comme on dit, mais pas un enfant. Pas un père de 44 ans. Non, au contraire. Tout prend son sens dans de tels moments. Qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Pourquoi pensez-vous que tel décès serait normal et tel autre pas normal? Moi, je suis convaincu que mon père savait qu'il allait partir et que quelque part, il l'avait même accepté. On peut passer sa vie à courir après les regrets, mais j'ai la conviction absolue que tout a un sens. Alors, j'accepte ce qui arrive. Et quand ça fait mal, je ne cherche pas à théoriser, à projeter sur un coupable, mais j'accueille ma douleur sans en rendre quiconque responsable, ni Dieu ni la vie. C'est le parcours de papa de partir si jeune. Comme c'est nos destins à nous quatre, ma mère, ma sœur, mon frère et moi, de devoir vivre ce que nous avons vécu. Je crois que tout s'imbrique de façon intelligente, même si c'est souvent au-delà de notre entendement. Vous comprenez ce que je veux dire?
Je pense, oui.
Je crois que la vie a du sens en elle-même. Mais c'est nous qui bâtissons le sens de notre vie. Il est important d'être à l'écoute de ce que l'existence nous fait vivre, nous impose parfois. La vie est comme un puzzle dont toutes les pièces sont importantes, même si certaines nous déplaisent. Nous vivons ce que nous sommes capables d'expérimenter. Chaque rencontre, chaque événement, joie, tristesse, chaque réussite ou échec est une chance de travailler à une amélioration de soi.
Et la mort de proche aussi, selon vous?
Oui. Mon père est juste devenu invisible. Il ne m'a pas laissé. Mon père est là, et il sera toujours là.
Mes peines se sont transformées en bijoux. Elles m'ont aidé à devenir quelqu'un de bien, d'aimant, d'humain.
Le pire qui puisse arriver quand on vit des épreuves est de se recroqueviller sur soi. On devient aigri et on ne voit plus que soi-même. Je ne voulais pas devenir ça, une ombre. Le présent est pour moi le seul véritable moment. Cela ne signifie pas vivre au gré du vent, sans se préoccuper de rien, ni rien anticiper. Bien au contraire, je suis très structuré, organisé dans ma vie professionnelle et personnelle. Mais j'accepte la possibilité que tout ne se passera pas comme je l'ai programmé.
Cela implique d'avoir confiance, malgré les imprévus. Et la mort fait parfois partie de l'imprévu. Épilogue. Aimer et laisser partir. Ce livre pourrait se poursuivre presque indéfiniment, tant sont nombreux les témoignages analogues à ceux que vous venez de découvrir. Mais mon rôle est aussi de savoir conclure. Comme vous l'avez sans doute remarqué, toutes ces expériences se ressemblent. D'un témoin à un autre, les mots sont identiques. Les mêmes détails se retrouvent. Les sensations décrites sont d'ailleurs si semblables qu'au fil de mon enquête, j'ai à plusieurs reprises été pris de vertige. Mais comment est-il possible qu'un phénomène relevé par tant de gens puisse être encore ignoré? Une telle répétition n'est-elle pas digne d'un examen scientifique? Au-delà des hommes et des femmes qui ont accepté de témoigner dans cet ouvrage, ce sont des centaines de milliers de cas qui pourraient être recensés rien qu'en France si on se donnait la peine de les écouter. Des centaines de milliers de cas. Parfois, il suffit d'un rien pour que s'amorce un mouvement qui emporte tout sur son passage. J'appelle de mes voeux une telle dynamique. Ces expériences touchent un nombre trop important de personnes en deuil pour être balayées d'un revers méprisant. Cette attitude, qui n'a rien de rationnel, est en outre profondément contre-productive. Car nous l'avons vu, ces expériences sont apaisantes et susceptibles de s'inscrire de manière très bénéfique dans un accompagnement de deuil. Elles ne sont pas l'expression d'une souffrance ni d'un dérèglement pathologique, au contraire. Elles proposent de poser un regard nouveau sur la vie et le sens de la mort. Elles invitent à reconsidérer nos certitudes. Que nous disent ces témoignages? Que la mort n'est qu'un voile d'illusion. Ce constat se situe au-delà des croyances et des religions. La vie ne s'interrompt pas, elle se poursuit, immuable, offrant le cadre d'une évolution dont les paramètres échappent en partie à notre entendement tant que nous sommes incarnés dans ce monde de matière. La mort ne nous conduit pas dans un néant de silence, puisque des murmures s'en échappent par millions. Elle ne nous condamne pas, car elle est un espace d'évolution permanente. Elle ne nous délivre pas non plus de nos épreuves, parce que nos épreuves sont des choix d'apprentissage délibérés. La mort est juste la transition entre un état matériel et solide et un état immatériel hors du temps. Un esprit de continuité caractérise cette transition. Nos émotions, nos défauts et nos qualités nous accompagnent et colorent la suite de notre existence. La vie est évolution. La vie a du sens. Un sens qu'il nous appartient à chacun de découvrir, et la rencontre peut se faire précisément dans l'adversité, au cœur des épreuves qui nous apparaissent d'abord comme trop injustes ou insurmontables. Cela n'est pas une profession de foi abstraite, mais vous l'avez vu au fil de ce livre. ce à quoi sont arrivés des femmes et des hommes touchés par la perte d'un être aimé. Ils ont trouvé du sens à la vie en étant confrontés à la mort. En traversant cette épreuve, ils ont réveillé la dimension spirituelle en eux qu'ils n'avaient jusque-là pas écoutée. Certains ont acquis la capacité de voir et d'entendre d'autres mondes. Avoir confiance malgré l'imprévu. Avoir confiance en la vie. Être porté par l'espérance. Cette espérance qui inscrit en nous la certitude que les difficultés ont la capacité de nous rendre meilleurs et qu'en parvenant à être lucides malgré la souffrance, même dans les circonstances les plus douloureuses, nous touchons au sens profond de l'existence. Avoir confiance dans les forces invisibles qui agissent sur le destin de l'homme. Trouver la force de ne pas se recroqueviller dans le déni, dans l'idée que les adversités qui nous affectent sont injustes. Nos proches ne désirent qu'une chose, nous voir heureux. Nos larmes les peinent. La vie continue. Ils grandissent, évoluent, s'étonnent, apprennent. Parfois, cela nécessite qu'ils s'éloignent. Aimer, c'est laisser partir. Accepter le départ. Laisser partir, à la fois pour son propre bien-être et pour l'évolution de ceux qui sont passés de l'autre côté du voile. Accepter qu'ils s'éloignent, c'est les aimer. Et alors, ils sont là, pour toujours. Remerciements. Ce livre n'aurait pu voir le jour sans la confiance de ces femmes et de ces hommes dont les témoignages sont ici présentés. Je veux vous dire toute ma gratitude et mon estime pour avoir accepté de partager ces moments extraordinaires auxquels vous avez été confrontés, sachant que cela allait vous replonger aussi dans la douleur du souvenir. Le départ d'un être aimé est toujours un cataclysme, même si les expériences qui l'accompagnent parfois ouvre sur la possibilité d'une vie après la vie. En acceptant de témoigner, vous faites office de pionnier. Grâce à vous, de très nombreuses personnes confrontées à ces phénomènes vont enfin pouvoir mettre des mots sur ce qui leur arrive. En découvrant les récits rassemblés dans cet ouvrage, elles vont apprendre à accepter, puis à mieux décrypter ce qu'elles ont elles-mêmes vécu. Oser témoigner fait grandir notre société. Je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir ouvert votre intimité dans le but commun de faire naître espérance et apaisement. Ce travail d'analyse et de mise en perspective des innombrables témoignages est une tâche déterminante. Je veux remercier ici Evelyne Elsesser qui est présente depuis le début de l'INRES pour sa patience, son enthousiasme et pour la rigueur implacable de ses recherches. Merci au docteur Christophe Fauré pour son esprit d'exploration, son ouverture et son courage. Confronté à ces témoignages de VSCD, il a écouté avec bienveillance et a fait ainsi le constat du caractère inexpliqué de ces phénomènes. C'est la preuve d'une magnifique intelligence de cœur. Merci à Sylvie Ouellet et à Agnès Stévenin pour avoir partagé dans ces pages un peu de leurs ressentis et de leurs intuitions sur la vie après. Je recommande vivement leurs ouvrages pour ceux qui désireraient aller plus loin. Les perceptions extrasensorielles constituent un outil précieux d'exploration des mondes subtils. Mais il faut avoir les pieds bien sur terre pour ne pas s'y perdre. Et c'est leur cas. Merci à Véronique Dimicoli pour sa minutieuse et patiente retranscription de tous les entretiens réalisés avec les témoins et pour ses conseils avisés. Merci à mon éditeur, Marc de Smet, pour sa confiance infaillible. Merci à toutes les équipes des éditions Albin Michel qui m'accompagnent maintenant depuis de nombreuses années. Merci à son président, Francis Esménard, à Richard Ducousset, ainsi qu'à Guillaume Dervieux. Merci à Marie-Pierre Coste-Billon pour sa relecture vigilante. Merci à Hélène Ibanez qui, une nouvelle fois, a magnifié mon travail d'écriture avec une efficacité extraordinaire. Merci à Agnès Oliveau, qui, en charge de convaincre les journalistes du sérieux de ma démarche, y est parvenue au-delà de toutes mes espérances. Depuis quelques années, j'ai le bonheur de faire la rencontre de libraires extraordinaires à travers la France. Je suis à chaque fois
plein d'admiration devant la passion qui vous anime. Vos librairies sont des lieux de rencontre, de partage, d'intelligence, des sanctuaires fabuleux, inspirants, indispensables. Merci d'être là.
Dans le cadre de l'accompagnement du deuil, en marge des structures officielles, de très nombreuses associations travaillent sur le terrain avec une énergie incroyable. Qu'elles proposent un soutien psychologique conventionnel ou une approche plus spirituelle, de découvrir toutes les formes de médiumnité, ou invitent à des groupes de parole pour parents en deuil, organisent des conférences ou des rencontres, cette vaste communauté propose quasiment dans chaque grande ville de France un espace de soutien inestimable pour toute personne touchée par la perte d'un être cher. Merci à toutes ces personnes qui, avec beaucoup d'abnégation, offrent une aide colossale. Enfin, merci à ma femme, Natacha Calestre-Aimé, pour la vie que tu m'offres chaque matin où nous nous réveillons ensemble.
Merci et à bientôt chez Audible.